Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio.
Dernière saison, dernière émission estivale, comme l'a dit Raphaël. Pour ce cappuccino, alors au sommaire, donc ben, Alain, donc tu vas nous parler de quelques infos, donc notamment ce festival de cinéma sur scène,
voilà, qui est jusqu'au 9, jusqu'au 13 juillet depuis
Dolce Vita sur scène.
Voilà, oui, c'est un jumelage et il y a un Dolce Vita Parigino sur l'île l'Isola Tiberina à Rome en
même temps. Et une autre.
Et puis également le forum des associations Inrete, Italia Inrete, et puis à la Cinémathèque rétrospective Dario Argento et
Dario
Asia Argento.
Asia Argento, bah, super. Nous, on va recevoir aussi vers 9h30 Henri De Finance, c'est le directeur commercial de la Maison Gatti. On va en parler. Si vous connaissez la maison fondée par Giuseppe Gatti, maison bah, typiquement parisienne, typiquement française, on va vous dire ça, on va vous expliquer tout ça. Et ensuite, on aura un peu plus tard en studio, elle nous fait le plaisir de venir en studio, la biologiste et médiatrice scientifique Annalisa Plaitano. Donc on va parler un peu de ses actualités et puis aussi elle va nous parler bah, du réchauffement climatique, de tous ces événements qui se sont passés, de l'espace aussi avec Samantha Cristoforetti, enfin voilà. On va avoir un programme très sympathique, justement, ben, en parlant d'espace. Marino Marini chantait en 59, Guarda che luna.
Che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna da lassù mi sta a guardare, resta soltanto rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto, ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare.
Marino Marini, Guarda che luna. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs que il avait fait j'ai plus le titre de sa chanson, une très belle chanson qui était d'ailleurs dans un film dont on va parler, enfin on va pas parler de ce film, mais de Jasmine Trinca, qui est la marraine du festival dont parlait Alain tout à l'heure, Dolce Vita sur scène. qui était à Paris, donc avait tourné Miele avec Valeria Golino et dedans il y avait une autre très belle chanson de Marini qui était je ne sais plus, je vais vous la retrouver, Guarda che vento. Mais bon, bref, on continue à vous accompagner jusqu'à 11h dans le Cappuccino en ce dimanche, en ce très beau temps sur Paris, avec Giulia De Palma, une diva jazz italienne, rare diva jazz italienne. Il y en aura une autre un peu plus loin dans la programmation musicale. La chanson s'appelle Tua.
Ho creduto di sognare, invece no. Son proprio tua, tua, fra le braccia tue, solamente tua, così. Finalmente mia, così per sempre tua, mi pareva impossibile, ma fu poi tanto facile legarti a me. Sognare in due, per morir così, finalmente tua, così. Per sempre
dans le Cappuccino ce dimanche matin, chacun sa affaire. Raphaël a été faire des affaires, Alain est studieux dans ses documents. Alors j'ai envie de vous parler d'un auditeur qui nous a envoyé un petit dossier très sympathique qui s'appelle Pierre Borion, qui habite à Massy, et donc il m'a envoyé un document original d'ailleurs de mars 1915, sur un article sur Riccio Garibaldi et la guerre, alors avec ses fils, enfin, c'est donc le second fils de Giuseppe Garibaldi. Enfin bon, voilà, c'est très sympa ce qu'il a fait. Il m'envoie aussi des photos de la guerre d'Algérie, de ses d'une bande de, justement de copains avec des Italiens, voilà, pour archiver. Donc voilà, on le remercie beaucoup, Pierre Borion à Massy. Et puis ben, si comme lui vous voulez nous écrire, nous faire part un peu de témoignages sur ben, des anecdotes ou des chemins de vie ou qui rencontrent ou pas d'ailleurs l'histoire privée ou l'histoire ou la grande histoire comme on dit, et ben vous pouvez nous écrire au 42 rue de Montreuil, 75 011 Paris, à l'YFM, Cappuccino, comme Pierre Borion. Donc vous pouvez voilà, contribuer, on ne sait jamais, on peut tout à fait parler, on parlera à l'antenne et puis on peut tout à fait archiver ces documents. Je ne sais pas si on a un mail, donc sinon vous pouvez aller sur le site aligre-cappuccino.fr. Et je ne sais pas si on a possibilité d'écrire par mail.
Bien sûr, par mail, c'est cappuccino avec 2p2c point aligre-fm @gmail.com.
cappuccino.aligre-fm, aligre-fm tout attaché.
Yes.
@gmail.com. Et ben voilà, super. Et donc voilà, comme ça, vous pourrez, on pourra voilà constituer, créer, continuer à garder ce lien entre vous et nous, entre la radio et entre la communauté italienne et franco-italienne qui nous est si chère. Alors mardi, il y a eu un événement, un très grand événement. Tiens, ça te concerne en plus, Alain. D'habitude d'ailleurs c'est toi qui dis, je sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, le 4 juillet c'était les 95 ans de la Lollobrigida.
Ah si, bien sûr,
je l'ai pas vu.
Née en 27, on calculera pas son âge. Si.
si. Voilà, donc là, oui,
et aujourd'hui malheureusement c'est l'anniversaire du décès de la grande Valentina Cortez, et dans un autre genre.
D'accord. Voilà, donc là c'était la Lollobrigida, elle a 95, mais bon pied bon œil, hein. Elle est elle est très vaillante. Voilà, la Laziale, elle a aussi, donc elle a joué au cinéma, mais elle a aussi chanté d'ailleurs une chanson qui s'appelle Nel mio orto, qui est ma foi très très écologique et végétale.
Nell'orto mio di notte qualcuno viene e va. È furba più di un gatto, che rabbia che mi fa. Ma se mi stanco, io prendo il fucile, ta-ta. Se fosse un caro amico, non salirebbe mai. Di notte sul mio pesco, per mettersi nei guai. Ma se lo prendo, lo stendo secco a terra, ta-da! Quell'uva che si mangia, gliela regalerei. Se appena mi guardasse, non le la negherei. Ma se mi stanco, io prendo il fucile, ta-da! Gli piacciono le mele e non gli importa, no, che con un pomo Eva Adamo rovino. Ma se lo prendo, lo stendo secco a terra, ta-da! Nell'orto mio di notte qualcuno viene e va. Mi sta rubando tutto, che altro mai vorrà. Ma se mi stanco, io prendo il fucile, ta-ta. Ma se lo prendo, lo stendo secco a terra, ta-ta. Ma qualche notte lo aspetto al buio e poi, ta-ta. Se mi stanco, io prendo il fucile.
La Lollobrigida, bon pied bon oeil. Alors, il y a une info aussi qui c'était, donc ça c'était mardi, l'anniversaire de la Lolo Brigida, et à mercredi dernier, donc le 6 juillet, a débuté la partie, enfin je veux dire, la continuité de l'expo Vittorio Gassman, dont nous a parlé Gabriel Lorès, qui était parti à Rome, vous savez, présenter des dessins de Vittorio Gassman qu'il avait envoyé dans un premier temps à son fils Alessandro Gassman et qui a été exposé donc à cette expo qui avait eu lieu à Rome jusqu'au 29 juin. Et donc là, mercredi, eh bien, cette expo est arrivée al Palazzo Ducale di Genova. Voilà. Donc, j'irai peut-être, parce que moi je serai au mois d'août dans ce coin-là, j'irai peut-être faire un tour d'ailleurs, puisque je projette d'aller aussi visiter le cimetière monumental de Gênes.
Ah oui, oui, donc, Staglieno, c'est magnifique, ouais. Les sculptures magnifiques, oui, je suis.
Voilà. Donc, j'irai peut-être aussi voir cette expo Victor Gassman et les dessins de Gabriel Lorès in situ à Genova. On a aussi une info dont vient de nous parler Francesca Paranella, c'est qu'aujourd'hui, donc dimanche 10 juillet, c'est une date marquée d'une pierre blanche, oh, puisque c'est l'anniversaire de
Chantal Cantalina. Par la pensée, on lui met des bougies sur son gâteau.
Chantal Cantalina, auguri, tanti auguri a te. Voilà, notre Chantal est fête son anniversaire, c'est super, on l'embrasse bien fort. Alors, Alain, est-ce que on parle un petit peu de cinéma ?
Parlons de cinéma.
De cinéma sur scène, de cinéma à Paris.
Voilà, donc c'est dans le cadre du jumelage de Rome et Paris. Il y a eu même cette semaine une manifestation à laquelle a assisté Raphaël.
Oui, oui, en réalité, j'étais jeudi soir à 19h, voilà.
Oui.
Il y avait Gualtier, le maire de Rome, et puis voilà. Moi, c'était très sympa d'ailleurs.
Ouais, donc c'était au Petit Palais. Ça a commencé hier, ce Dolce Vita sur Seine. Essentiellement, ça se passe sur les quais de Seine, sur le quai des Célestins, qui est en face de l'île Saint-Louis, mais aussi dans des cinémas comme le École au pluriel Cinéma Club, qui est au 23 rue des Écoles, ou bien le Christine Cinéma Club, qui est rue Christine. Alors, on peut voir des grands classiques, notamment aujourd'hui, on pourra voir La Grande Bellezza. Donc, c'est projeté en plein air à la tombée de la nuit. La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino.
Ouais.
Et puis, bon, ça
continue. A far l'amore comincia tu.
Voilà, notamment. Et puis, donc, ça continue jusqu'au 13. Et avec notamment un cinéaste qui est peu connu en France, qui est Carlo Verdone, qui est plutôt, disons, un humoriste. Et on pourra voir donc 4, voire 5 de ses films, notamment aujourd'hui au École Cinéma Club à 18h, Un Sacco Bello. Donc, c'est un film de Carlo Verdone avec Carlo Verdone et Mario Brega. Ou bien Maledetto il giorno che t'ho incontrato, ça ce sera demain, lundi. Ou bien mardi, Borotalco. Voilà. Donc, ce sera à 19h. Ou bien encore Viaggio di nozze, qui sera le mardi 12 à 20h30. Alors, autre chose, c'est l'association Italia in Rete qui profite justement de ce Dolce Vita sur scène pour faire préparer son forum de septembre. Ça se passe également donc ce soir à partir de 19h sur le quai des Célestins. Et attention, il y a une tenue blanche exigée. Voilà, il faudra venir en tenue blanche. Donc, c'est les représentants des différentes associations italiennes qui font partie dans Italia in Rete, ou bien les adhérents à ces associations. Alors, tout le monde en blanc, et même selon Massimo Iacquanello, il faudrait avoir aussi les cheveux blancs, teint blanc comme lui. Voilà, je ne sais pas si cette information est à prendre.
Una serata in bianco.
Voilà, voilà. Alors, on a pu voir aussi en avant-première hier le film de Yasmine Trinca. Yasmine Trinca, on la connaît depuis...
Marcel.
Voilà, on a pu voir Marcel, mais alors Yasmine Drinka, on la connaît depuis le film de Moretti, La Chambre du Fisc.
Oui, Palme d'Or.
Voilà, ou bien La Meglio Gioventù de Tullio Giordana, ou ce grand film qui va des années 60 à nos jours, ou bien Le Tommaso de Kim Rossi Stewart, ou bien encore Euphoria de Valerio Golino, et très récemment La Dea Fortuna de Ferzano Spetek. Et là, elle s'est lancée dans la réalisation d'un film qui est film très beau, très poétique, qui se passe à Rome essentiellement et aux alentours. Et là, on a la nonna, qui est Giovanna Ralli, une grande actrice, elle aussi de la génération
de la classe,
de nos grand-mères.
De la grande classe.
Voilà. Alors, la nonna, c'est Giovanna Ralli. La fille, c'est Alba Rohrwacher, méconnaissable avec une perruque brune. Et la nipotina et le jeune Marcel, mais je vous laisse découvrir qui est Marcel. Donc je vous recommande ce film qui sortira, je crois, à Paris le 20, si je ne me trompe, c'est-à-dire dans mercredi en 8.
Oui, dans 15 jours.
À la Cinémathèque, je recommande évidemment aussi les films d'Asia Argento, ça a commencé en ce moment, et les trois films de Dario Argento et Asia Argento, et sortira également le 20 un magnifique film de Valerio Zurlini qui s'appelle Les Soldates. On a gardé en français donc Les Soldates. C'est un film avec Thomas Milian, Léa Massari, Marie Laforêt et Anna Karina. Et Les Soldates, on est pendant 41-42, pendant que l'Italie fait la guerre en Grèce et en Albanie. Et c'est un jeune lieutenant, Thomas Milian, qui doit recueillir des prostituées pour les emmener sur les combats, pour le repos du guerrier. Voilà. Donc c'est un film qui commence comme ça, on sourit un petit peu. Et puis finalement, c'est un très beau film sur le courage, parce que ça devient dramatique vers la fin, sur le courage, lâcheté, la dignité de l'homme. Vraiment, donc, je vous recommande ce film, Les Soldates, qui sortira le 20 juillet.
Et voilà. Il y a aussi, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort d'ailleurs, tiens, on pourra regarder, c'est le documentaire de Giuseppe Tornatore sur Ennio.
Il est déjà sorti. Oui,
tu l'as vu déjà? Passé,
non, je ne l'ai pas encore.
2h40 Ennio Morricone, voilà. Ça a été tourné sur 8 ou 9 ans de la fin de sa vie, donc ça a l'air assez magistral.
Et il a été présenté par le fils de Morricone, et là, cette semaine, oui, mais je ne pouvais pas m'y rendre.
Voilà, le grand Ennio Morricone par Giuseppe Tornatore, et voilà, c'est un film qui promet. Autre petite info, alors plutôt du côté de la musique, c'est Gianni Morandi qui a été très ému d'inaugurer à Bologne la Piazza Lucio Dalla, en hommage au grand chanteur bolognais. Il a désormais une place à Bologne, voilà, Lucio Dalla. Eh bien, écoutez, il est 9h25 sur Aligre FM dans le Cappuccino. On va faire une petite respiration musicale. On va partir sur les terrasses parisiennes, les terrasses italiennes, romaines, comme disait Alain avec son Paris-Rome, je sais plus c'était quoi le slogan du jumelage Paris-Rome 56, seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris.
Ce qui est vrai.
Donc là, on va partir plutôt à Détroit avec Fred Bongusto, spaghetti insalatina e una tazzina di caffè.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù, invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te, ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me, per te. Lola, at the drive.
Fred Bongusto. Alors, justement, on était dans les cafés avec Fred Bongusto et d'ailleurs, bah, c'est un des les grands marqueurs de l'esprit parisien. Qu'est-ce qu'on peut dire, les toits en zinc, l'accordéon musette développé justement par les Auvergnats et les Italiens, notamment les Emiliano Romagnoli, et aussi les chaises des terrasses, les chaises en rotin. Alors, on a cette maison dont on a parlé tout à l'heure. Maison Gatti, qui a été fondée par Giuseppe Gatti, qui s'est installée au 8 rue Jeanne, à la base, dans le 15e arrondissement, et qui proposait donc des meubles en rotin, en tout genre. Donc voilà, des chaises de terrasse en rotin qui sont devenues aussi, avec d'autres grandes maisons, le symbole de l'excellence française et de l'esprit parisien. Alors on a en direct avec nous Henri de Finance, qui est le directeur commercial de la Maison Gatti. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Alors, si on peut avoir un peu plus de retour dans le casque.
Oui.
Alors, comment ça va ce dimanche matin ?
Eh bien, écoutez, ça va très bien. Ensoleillé, ravi d'être avec vous.
Vous êtes en terrasse, là, comment vous êtes ?
Non, pas encore. J'ai pas encore eu le temps. C'est la prochaine étape. Je passe un moment avec vous et ensuite, je vais boire effectivement mon café en terrasse.
Ah, ben, c'est très gentil de vous être rendu disponible pour nous. Donc, ouais. Votre entreprise Maison Gatti, c'est un des grands acteurs du secteur des sièges en rotin des terrasses parisiennes. Donc, fondée en 1920 par Joseph Gatti pour équiper. À la base, c'est ça, les brasseries des grands boulevards ?
Oui, tout à fait. Donc lui est arrivé en 1920, un peu avant d'Italie, assez jeune. Il a rejoint une maison de rotin. Ils étaient tous installés dans le 15e arrondissement autour de Montparnasse. Il y avait beaucoup de rotiniers qui œuvraient à ce moment-là. Et Joseph Gatti a repris une enseigne sur laquelle il a mis son nom. Et c'est à partir de ce moment-là que l'aventure a commencé.
C'était la maison Barbeau et Carré, c'est ça ?
Voilà, exactement.
J'ai même le téléphone Vaugirard 6384.
Eh ben dis donc, vous êtes bien renseigné, exactement, tout à fait ça.
Oui, non mais c'est vrai que ça nous replonge dans une sorte
de
Paris éternel, de Paris mythique, de Paris rêvé. Et donc vous faites perdurer toute cette époque. Alors je crois que dans l'histoire de votre maison dans les années 50, c'est la fille de Odette qui a pris la relève. Pour développer des modèles peut-être un peu plus originaux.
Voilà, exactement. Après la Seconde Guerre, en fait, au décès de son père Joseph, Odette, sa fille, reprend l'activité et elle va en faire effectivement une belle pépite parce qu'elle va être celle qui va donner cet essor après la guerre à la maison Gatti. Alors, elle est confrontée en plus à une crise parce qu'en 1950, on voit l'arrivée de nouveaux matériaux, des matériaux synthétiques, des matériaux en plastique.
Ouais.
Donc, et c'est à ce moment-là où elle se concentre vraiment sur la terrasse parisienne, où elle va vraiment donner cette identité à la terrasse parisienne en étant vraiment focus là-dessus. Et c'est là que pendant près de 40 ans, elle va œuvrer effectivement au développement de la maison Gatti.
D'accord. Donc, on rappelle comment est fait une chaise en rotin à Gatti. Donc, il y a une armature qui est faite donc en rotin. Donc, c'est une écorce, c'est ça, qui est brune ou blonde, je crois, matière 100% naturelle, recyclable. Et ensuite, on a le canage. Et le canage, là, il a évolué justement à l'époque de Odette Gatti. On est passé vers le ricin, c'est-à-dire un dérivé de l'huile de ricin. C'est ça?
Voilà, exactement. Vous allez pouvoir venir travailler chez nous, Fabrice. On va vous embaucher. Exactement. En fait, le ricin qu'on source effectivement des pays du Sud-Est, qui est un peu le rotin qui est un
le rotin
qui est la famille du palmier, donc on source en Asie du Sud-Est. Et donc ça, c'est le premier composant qui peut être brun ou blanc, le mano ou le maloca, comme vous l'avez cité.
Voilà.
Et ensuite, donc... le deuxième grand composant de nos chaises, c'est le ricin. Alors, dans les années, effectivement, 60, il y a le nylon qui est arrivé. Petit à petit, ensuite, il y a le ricin qui s'est développé, qui est extrait d'un arbre et qui est une huile végétale. 100% polymère, et effectivement qu'on peut teinter après dans différentes couleurs, et c'est génial parce que c'est vraiment avec le composant aujourd'hui qui est très très résistant, qui nous permet effectivement d'avoir une palette de choix pour nos clients qui est extraordinaire.
Oui, et puis donc qui est très satiné, qui est très résistant, qui est très très agréable.
Exactement.
Mais quand même, je pense qu'elle subit pas mal de transformations parce que c'est une matière à la base naturelle.
Oui, exactement. Qui suit quelques transformations, c'est vrai, c'est un polymère, donc il y a tout un processus chimique qui permet effectivement d'en faire ce produit final. Mais qui reste vraiment vraiment, et ça on est très attaché à ça, d'en faire une matière naturelle à la base. C'est vraiment un produit naturel.
Alors oui, justement sur le naturel, vous êtes aussi attaché au zéro carbone, et c'est-à-dire que vous compensez un peu les coupes forestières dont vous avez besoin en Asie du Sud-Est en replantant, c'est ça, des arbres, ouais. Notamment en Bretagne, dans le Morbihan.
Exactement, ça c'est toute une politique qu'on est en train de mener et développer, qui s'inscrit effectivement dans l'actualité, et c'est calculer un petit peu notre bilan carbone à travers l'import du rotin, parce qu'on est obligé de le faire venir d'Asie du Sud-Est. Mm-hmm. Donc avec des calculs un peu savants, on regarde tout ce que ça émet comme CO2, et ensuite on le replante en équivalent une forêt en Bretagne, d'où est originaire effectivement l'actuel patron, donc il tenait effectivement à reboiser sa région.
D'accord, donc l'actuel patron, il est arrivé en 2019, c'est ça, Alexis,
ouais,
Dièvre.
Exactement, en fait, entre Odette Gatti a cédé son entreprise en 1992 à deux frères, les frères Maugrillon, mm-hmm. qui étaient eux historiquement originaires effectivement de ce métier, de cette industrie, et qui pendant 30 ans, entre 92 et 2009, ont continué effectivement à développer la maison Gatti, en lui donnant donner cette capacité à la maison Gatti de produire plus de chaises. Et en 2019, Alexis Dièvre a racheté l'entreprise.
Voilà, c'est ça. Et alors, aussi, il y a une autre grande date, je pense, pour votre entreprise, c'est 2010, où vous avez obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant en tant que rotinier et tisseur.
Voilà, exactement. Ça, c'est aussi un fait marquant, et c'était grâce aux frères Maugrillon. C'est vraiment, on est attaché, on produit l'intégralité de nos produits en France. À 90%, on a une petite partie aussi qui est produite en Espagne, donc plutôt français et un petit peu européen. Et en fait, comme on a tous les marqueurs, à savoir que c'est un produit artisanal, 100% de nos produits sont faits à la main. On est sur le territoire français, notre manufacture est installée à côté de Fontainebleau, dans un petit village qui s'appelle Villemer. Petit village charmant,
ouais.
Et du coup effectivement avec tous ces indicateurs, en fait on a pu être classé au patrimoine vivant des entreprises, dont on est très fier, et c'est ça nous permet effectivement de faire rayonner notre entreprise en France, en Europe et dans le monde entier.
Oui, alors justement, quand on préparait l'émission, vous me demandiez par quel moyen j'avais repéré votre entreprise, et je pensais que c'était des reportages et tout ça, et en fait je me suis souvenu exactement, c'était dans le quartier Baltard à Nogent-sur-Marne, parce qu'il y a une pizzeria là donc je vends tout le temps les mérites, qui s'appelle Giacomo, qui est une excellente pizzeria.
D'accord.
Et donc ils avaient donc des chaises en rotin sur leur terrasse, bon, comme beaucoup de brasseries, mais surtout ce qui m'avait frappé, c'était, ils avaient une chaise bébé en rotin, mais absolument magnifique, hyper raffinée, parce que vous ne faites pas que des chaises, il y a tout un mobilier, il y a même les tables de bistrot avec les bordures lisses, les bordures moulurées, les pieds classiques 50-60, des jardinières, toute une gamme. D'ailleurs, sur le canage, vous avez plein de collections qui sont absolument magnifiques, on peut voir ça sur maison-gatti.com, le Trocadéro qui est fleuri, le Soufflot à Losange, d'ailleurs les noms sont typiquement parisiens, le Père Tranquille à Croix, Bagatelle avec le dossier ajouré, Saint-Paul, Tuileries avec des points, enfin voilà, c'est absolument... C'est absolument somptueux comme, comme collection. Alors, on parlait donc de la répartition, enfin de vos différents marchés. Donc, vous êtes présent évidemment à Paris, province, international. Ça se ventile à par égal à peu près.
Ça, alors non, pas tout à fait à part égal. Effectivement, on est présent dans le monde entier. On a fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires, à peu près 80% de notre chiffre d'affaires en France. Donc une grosse partie à Paris. C'est là où résident quand même beaucoup de nos clients. Et ensuite, on se développe un peu en Europe du Nord. Aussi, on a pas mal de clients. Les pays scandinaves sont quand même assez friands de nos produits. Et ensuite, on a les États-Unis. Les États-Unis aussi, qui est un gros marché pour nous. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on voit un petit peu la Tour Eiffel. On fait un peu rêver quand on a nos chaises. On vend Paris.
Bien
et donc,
sûr.
Donc voilà. Maintenant, on sait que si on veut se développer encore à l'international, c'est un des projets de la maison Gatti. Il faut aussi qu'on puisse suivre en termes de production. Et voilà, c'est ce sur quoi on s'attelle. On est un métier 100% artisanal. Donc, de pouvoir se développer à l'étranger, c'est une chose. Maintenant, il faut que ça suive au niveau de la production.
D'accord. Et alors, quelles sont un peu vos actualités? J'ai ouï dire que vous aviez un gros client qui est entré à votre capitale.
Ouais, exactement. Donc l'actualité est assez riche en fait. Alexis Dièvre, qui a vraiment une vision, qui est, un patron qui va donner un essor incroyable à la maison Gatti. Lui, il s'attelle effectivement à la développer, à écrire la stratégie. Et récemment, on a une personne assez connue dans le monde de la mode, qui est Christian Louboutin, qui est venu à la manufacture et qui est tombé amoureux de nos produits. Et en fait, et petit à petit, effectivement, il y a eu une très belle rencontre entre Alexis Dièvre et Christian Louboutin. Et Monsieur Louboutin est rentré effectivement dans le capital de la maison Gatti. Donc, ce qui est pour nous effectivement le reflet d'un gage de qualité, parce que ça veut dire que si on plaît à Christian Louboutin, lui qui par son histoire,
un homme de goût.
Ouais. Ah, comment?
Un homme de goût.
Un homme de goût, voilà. Donc, ça veut dire que effectivement, on a des produits qui sont prometteurs. Et ce qui permet aussi pour nous de développer le produit un petit peu sur des nouveaux segments. Et pour exemple, Christian Louboutin est en train d'ouvrir un hôtel à Mélides au Portugal.
Ouais.
Et on travaille pour lui sur des produits d'intérieur. Donc ça, c'est une nouvelle chose qu'on fait sur des portes de placard, sur des devantures de bar, sur des chaises qui sont spécialement designées pour lui.
Mmh.
Donc voilà, donc ça nous permet de rentrer effectivement dans des univers qui sont un peu nouveaux pour la maison Gatti. Et qui sont très prometteurs en tout cas pour les années à venir.
Voilà, donc du sur-mesure pour Christian Louboutin. Et vous avez aussi des fonds italiens, non?
Parce que vous m'avez dit. Alors en fait, c'est pas directement des fonds italiens. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait la famille Agnelli a investi dans le capital de Christian Louboutin, qui lui-même a investi chez Maison Gatti. Donc c'est pas directement, mais en tout cas
indirectement, il y a des fonds italiens. Indirectement, il y a des fonds italiens de la famille
Agnelli qui produit beaucoup de ses produits en Italie. Donc, vous voyez. On a des liens
indirects
avec l'Italie.
Voilà, donc la maison Gatti, si vous aimez le côté artisanal et donc ultra chic, eh ben, sachez-le, ça vient aussi un petit peu d'Italie. Ben, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri de Finance.
Je vous en prie.
J'espère que peut-être on peut se donner rendez-vous peut-être à la rentrée pour venir, parce qu'on fait aussi des reportages et pourquoi pas venir directement dans votre atelier de fabrication pour faire un reportage à la fois vidéo et puis un reportage audio qu'on pourrait passer à la radio. Comme ça, on pourrait encore plus détailler vos productions.
Exactement. Bah, écoutez, avec plaisir. Fabrice, venez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Et on essaiera de trouver un très, très bon café pour vous.
D'accord.
Et nous, effectivement, on fonctionne peut-être à une machine qui est peut-être pas... C'est pas digne de ce que vous avez l'habitude de voir.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Merci de vous être rendu disponible. Et puis, on vous souhaite un très bon dimanche en terrasse.
Merci beaucoup également.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Angela, Angela. Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire.
Attention. Alors, eh ben justement, on vient de recevoir, on vient d'accueillir Gabriel là, dans les studios de Aligre FM. Peut-être qu'il va pouvoir nous préciser un peu cette expo Gassman qui est arrivée à Gênes mercredi dernier, mercredi 6 juillet.
Oui, exactement, jusqu'au mois de septembre. Et en effet, c'est...
Ah, jusqu'en septembre, donc je vais pouvoir y aller au mois d'août, moi.
Oui, non, elle a commencé le 9 juillet et elle sera jusqu'au mois de septembre. Donc ça se passe au Palazzo Ducal, le Palazzo Ducal, donc de Genova, la ville de Gênes, dans
Palazzo
le nord de
Ducal,
l'Italie.
Ouais.
Oui, il ne faut pas confondre Genova avec...
avec Genève.
Avec Genève, en Suisse. Donc, l'exposition... Donc, a été transporté.
Donc c'est la même expo qu'il y a eu à Rome où tu as
exactement et il y a également les dessins que certains artistes ont fait, des portraits ritratto de Vittorio Gassman,
il Mattatore, ouais,
il famoso Mattatore. Et en effet, oui, certains artistes ont eu la chance de pouvoir avoir leurs dessins qui
figurent. Et donc toi, tu en as vu combien?
Alors moi, j'ai eu la chance d'en avoir eu 5 à Rome.
5, ah ouais, carrément. Et donc, ils sont à Gênes, là.
Et là, je me suis aperçu, alors je n'ai pas été vérifié sur place, mais j'ai vu en effet qu'il y en avait un qui était placé différemment par rapport à l'expo
d'accord.
de Rome que j'avais vue.
D'accord.
Et je me suis dit, ah, je suis fier d'avoir mon dessin qui est déplacé dans cette ville, dans cette deuxième ville d'Italie, et j'espère qu'il sera aussi un beau jour dans d'autres villes du monde.
Bah oui, j'imagine qu'ils vont continuer à tourner.
Oui, parce qu'en fait, en Argentine, Gassman a été pas très connu, mais très célèbre.
Oui,
et ils envisagent éventuellement de mettre cette exposition à Buenos Aires.
D'accord. Ah oui, carrément outre-Atlantique.
et à New York. Alors New York, je ne sais pas où c'est aux États-Unis, c'est
d'accord,
ça?
D'accord, c'est ça, ouais, peut-être. Alors justement, de l'Argentine, on va juste passer un peu plus loin au Brésil, sur la plage d'Ipanema, mais c'est le Bruno Martino qui a repris la chanson de Antonio Carlos Jobim, qui s'appelle Ragazza en italien, d'Ipanema.
Parfait.
Torneresti sui tuoi passi, ragazza di Ipanema, che passi se ti voltassi ad ogni singolo Ma tu segui per la strada un lungo samba che si snoda ovunque vada, destando un coro di se per me ti fermassi, se per me ti voltassi, se la mia voce ascoltassi, ma per te l'importante non c'è, nient'altro all'infuori di te, basterebbe ti voltassi, ragazza di Ipanema che passi, ma non consideri mai nient'altro che te. Ascoltassi, ma per te l'importante non c'è, nient'altro all'infuori di te, basterebbe ti voltassi, ragazza di Ipanema che passi, ma non consideri mai nient'altro che te, altro che te.
Carioca, les Carioca avec la belle chemise de Gabriel ce matin, une chemise toute en fleurs, tout en végétal. Alors on reçoit, elle nous fait le plaisir d'être venue en studio, la biologiste médiatrice divulgatrice scientifica comunicatrice. Annalisa Plaitano, bonjour Annalisa, merci
bonjour,
d'être là.
Bonjour, merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Ah ben c'est génial, tu es venue, donc tu habites, de toute façon tu habites pas très très loin, mais non. Un peu du côté du canal,
oui.
Et dans le nord de Paris.
Oui, nord-est.
Voilà, donc on va parler avec toi un petit peu de tes activités, on va te présenter déjà dans un premier temps, et puis aussi on va parler un peu des grands thèmes de l'écologie, aussi un peu du réchauffement climatique, puisque oui. Tu es médiatrice, c'est-à-dire que tu, vulgarisatrice aussi en italien.
En italien, on dit divulgatrice.
Voilà, divulgatrice.
Divulgatrice. Mais en fait, comme c'est un nouveau métier et à l'intérieur, il y a plusieurs métiers parce que c'est de la communication de la science, mais on peut la faire en mille façons. Donc, selon plus ou moins si on rencontre le public directement, quels médias on choisit, on peut appeler légèrement différemment les métiers. En fait, c'est un discours un peu complexe parce que justement, c'est un nouveau métier très... varié.
Donc en fait, ça fonctionne, c'est les rapports entre la science et la société. que oui. Oui. dont tu parles.
Alors, classiquement, quand on dit vulgarisation, on entend l'explication d'une façon assez simple des concepts scientifiques complexes aux gens qu'on appelle les non-initiés.
Mm-hmm. C'est-à-dire nous.
Non, mais en fait, ça se discute ça aussi, hein, parce que chacun a sa connaissance. Donc, il n'y a pas...
Ouais, bien sûr.
Les publics n'est pas un tableau blanc ou une boîte à remplir, un cerveau à remplir. Donc, ça se discute ça aussi. Mais classiquement, vulgariser, ça veut dire rendre public vers les vulgos, non ? Ça veut dire peuple. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un concept un peu plus complexe dans le sens que le public aussi a quelque chose à dire. Donc, c'est plutôt un dialogue sur les sciences.
Une interaction.
Oui, une interaction. Donc, c'est pour ça qu'on utilise pas mal les mots médiateur, médiatrice. Média, quelque chose qui est in mezzo, au milieu. Et qui fait un peu les liens entre, si on veut, le monde de la recherche et le reste de la population, pour le dire très simplement. Hein.
Voilà, alors justement, donc, les interactions avec le reste de la population, c'est que tu écris, par exemple, des articles scientifiques pour des jeunes, dans une publication pour jeunes, comme on pourrait dire.
Oui, un journal des sciences pour jeunes à partir de 13 ans.
Voilà, pour le jeune public, ado, pré-ado. Tu fais aussi des conférences, tu enseignes à la Sorbonne, à l'université d'Évry, la culture et la communication scientifique, et tu es aussi formatrice pour des doctorants et chercheurs pour apprendre à communiquer l'écrit et l'oral. Donc c'est des...
Oui, comme ça, ça fait beaucoup. Hein.
Oui, non mais c'est... Voilà, tu as pas mal de palettes
Oui, parce que je suis indépendante, donc je travaille comme freelance, et dans ce cadre-là, j'interviens dans des tables rondes, parfois j'y modère des soirées, des tables rondes, ou alors j'interviens en première personne, je fais des conférences. Par exemple, la dernière a été dans le festival du Big Bang au Big Band, à l'université de Paris-Saclay. Ouais. Il y a ce festival qui conjugue la science et la musique, donc ça fait... vous intéresser.
C'est intéressant.
Et donc, j'ai fait une conférence sur une femme, une astronome femme du 1800. Et donc, puis, comme journaliste, même si je n'ai pas la carte de journaliste, donc je suis science writer, hein, on peut dire comme ça. Oui, j'écris pour des journaux. Et puis, à côté, oui, effectivement, le deuxième semestre de l'année, j'enseigne à la Sorbonne aux étudiants de sciences, j'enseigne la communication scientifique. Et à Évry, c'est des étudiants de langue, j'ai fait un peu un cours de culture scientifique, ce qui est une très bonne idée de faire un cours de culture scientifique aux futurs traducteurs, par exemple.
D'accord. Alors, tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et donc tu développes sur les réseaux sociaux tes thèmes de prédilection, qui sont les plantes, les animaux, l'histoire des sciences, et aussi les contributions cachées ou oubliées des femmes scientifiques dont tu viens un peu de nous parler.
Oui, alors en fait, je suis biologiste de base, donc je suis zoologiste. Et donc, oui, effectivement, j'aime bien parler des êtres vivants, hein, pas que des plantes, animaux, bactéries, virus, champignons, etc. Mais c'est vrai que j'écris pas mal sur les femmes scientifiques. Parce que je m'intéresse à l'histoire des sciences, alors qu'au lycée, j'ai détesté l'histoire, pense un peu. Non, je trouve très intéressant. Et puis, en particulier, les femmes scientifiques les femmes...
Donc, un regard sur l'histoire via le prisme des femmes. Enfin, c'est un peu une relecture, parce que c'est vrai qu'elles ont été un peu oubliées, comme
oui, exactement. La connaissance n'est pas... c'est forcément sectorisé, c'est-à-dire que l'histoire se mélange à l'histoire, se mélange à l'histoire des femmes, donc c'est tout un ensemble, c'est ça la culture scientifique, c'est pas seulement expliquer qu'est-ce que c'est la gravité ou voilà, un concept scientifique, c'est vraiment parler du rapport entre la société et la science. Et les femmes, effectivement, historiquement, ont été mises de côté. Déjà parce que jusqu'à, par exemple en France, si je ne me trompe pas, jusqu'à 1880, l'éducation secondaire n'était pas accessible pour les femmes. Donc déjà, jusqu'à là, elles ne pouvaient pas faire des études, sauf si elles le faisaient de façon autonome à la maison, si elles avaient des parents un peu progressistes, si on veut. Et aussi, normalement, dans des classes sociales assez... élevé,
un peu plus élevé, ouais.
Les riches,
ouais. Des bourgeois.
Oui, effectivement. Mais après, les femmes se sont toujours fait de l'espace. Même si elles ne pouvaient pas, elles l'ont fait. Donc, elles ont commencé à faire des choses et seulement après, elles ont été reconnues. Par exemple, dans les festivals dont je vous parlais, il y a Dorothea Klumpke, qui a été une astronome très, très connue, un peu oubliée maintenant, mais parce qu'elle est surtout connue aux États-Unis, qui, elle a travaillé toute sa vie gratuitement et sans être reconnue. Mais elle était une astronome renommée et bien reconnue et bien appréciée de l'Observatoire de Paris.
Donc elle a fait sa place, quoi.
Oui, mais comme...
De manière pragmatique.
Oui, mais plein d'autres femmes ont fait ce travail pour une grande passion. Et puis, bah, certaines, comme Lise Meitner, par exemple, elle devait rentrer dans la porte secondaire parce qu'on ne pouvait pas la faire rentrer officiellement. Donc, les femmes ont vraiment... agit avant que ce soit reconnu. Et donc, j'aime bien raconter ces histoires des femmes pour faire voir même aux jeunes d'aujourd'hui que on peut faire des choses, on a toujours fait des choses, même si on n'apparaît pas trop dans les livres d'histoire.
Bien sûr, donc c'est le savoir-faire et aussi le faire savoir.
Oui, si on veut, oui.
Hein, si on peut dire.
Oui, oui.
Alors, justement, on va... faire une petite respiration musicale, tu m'as donné un peu tes goûts musicaux, donc on va commencer avec Le Printemps de chanté par Riccardo Cocciante.
Alors
fosse terra, cancellerò quei segni dell'ultima tua guerra e brucerò col fuoco quest'erba tua cattiva e ti farò con l'acqua più fertile e più viva. Pregherò che il sole asciughi questo pianto e pregherò che il tempo guarisca le ferite. Poi costruirò una serra intorno al tuo sorriso, farò della tua vita un altro paradiso. Sarò il tuo contadino e tu la terra mia, combatterò col vento che non ti porti via, poi spargerò il mio seme nella tua verde valle e aspetteremo insieme che venga primavera. Primavera.
est le 10 juillet. On est... Ah, Jessie Mouchel à la technique qui me fait un peu des blagues. Alors, donc voilà, c'était Ricardo Cocciante en 1980. Alors, cette semaine, il y a eu, enfin, il y a même une semaine pile, c'est malheureusement le jour dimanche 3 juillet où s'est écroulé un des glaciers du plus haut sommet des Dolomites, la Marmolada, qui est tristement célèbre maintenant, 3342 mètres. Au dernier bilan hier soir, il y avait 11 morts. Donc évidemment, c'est le réchauffement climatique qui impacte directement les Alpes, puisque je crois avoir lu d'ailleurs que les Alpes et les hauts sommets, justement vers 3000 mètres, sont beaucoup plus impactés, évidemment, parce que la chaleur arrive beaucoup plus vite. Je crois qu'il y a 50% d'impact supplémentaire par rapport à la plaine, quoi. Donc voilà, le réchauffement climatique, c'est évidemment, je pense, un sujet incontournable dont tu parles et dont tu t'intéresses.
Bah, alors, disons que c'est un peu l'émergence, c'est un peu un gros thème, on ne peut pas passer à côté. Moi, je ne suis pas du tout une experte des climats ou d'environnement, mais c'est vrai que je suis déjà à niveau personnel parce que ça m'intéresse. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, j'en parle de temps en temps. Et d'ailleurs, maintenant, plus que réchauffement climatique, on parle des changements climatiques parce que ça dépend, le climat est en train de changer. Pas toujours dans le sens de l'augmentation de la température. Globalement, oui, mais à certains endroits de la Terre, la température pourrait diminuer. Mais c'est surtout les changements, l'augmentation des phénomènes extrêmes. C'est très, très complexe parce que le climat est quelque chose de très complexe à étudier, très complexe aussi à communiquer.
Oui, parce que c'est un peu anxiogène. Donc, est-ce que c'est le climat qui change ou alors est-ce que c'est comment dire, c'est une mutation. Donc, on a peur que les choses empirent ou c'est simplement une mutation, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre et on a une crise qui fait qu'on passe d'un état à un autre, mais c'est pas forcément c'est pas forcément, ça sera pas forcément négatif ou irréversible. Je sais pas.
Alors, c'est vrai qu'on passe d'un état à un autre, mais c'est plutôt une dégradation. C'est-à-dire que ces changements climatiques portent des gros changements au niveau même de la croûte terrestre, et ça va affecter non seulement parce qu'on entend souvent parler de la sixième extinction des masses, les espèces qui disparaissent et tout ça, mais l'homme est concerné directement. Et on le voit par exemple avec des cas comme la chute du glacier de la Marmolada, mais il faut dire que peut-être maintenant les personnes commencent à se rendre compte qu'on est déjà dedans, que c'est pas dans le futur les changements climatiques et que ça nous concerne directement. Mais comme je disais avant, ça fait peur, donc notre cerveau tend un peu à écarter les choses qui nous font peur.
Bien sûr.
Et puis c'est quelque chose qui paraît ou paraissait loin, donc maintenant un peu moins. Et puis il y a pas mal de négationnistes aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en évolution. Et la chose un peu encore un peu plus grave, c'est que même si on arrêtait maintenant complètement les émissions à effet de serre, et malheureusement, il y a des cycles qui sont déjà partis et qui vont un peu continuer. Donc il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour que la situation se stabilise. C'est très, comme thème, c'est pas sympa et ça cause notamment parmi les jeunes pas mal d'éco-anxiété. Je sais pas si tu as entendu déjà
parler. Ouais, bien sûr.
Mais
éco-dépression, éco-anxiété.
Oui, mais il y a quand même des solutions. Il faut rester quand même positif et optimiste parce que on doit principalement, on peut agir à deux niveaux, l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, je ne sais pas si on dit comme ça en français.
Si. Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut quand même faire de tout pour faire diminuer les émissions à effet de serre, pour chercher de freiner ces processus qu'on ne peut pas arrêter, mais le freiner au maximum. D'autre part, il faut s'adapter, c'est-à-dire que on doit faire avec. Si on veut, il faut maintenant, par exemple, construire, se déplacer et vivre de façon à pouvoir vivre dans ces nouvelles états. Si tu veux, comme tu disais tout à l'heure, on passe d'un état à l'autre, effectivement, maintenant.
Non, mais c'est vrai que dans les villes, on voit que les villes sont beaucoup moins adaptées à ça. Il y a beaucoup de bitume, donc ça respire moins. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire qu'on pourrait envisager de faire.
Il y a des solutions. Il y a des solutions. Et maintenant, il faut voir si au niveau politique, ces solutions veulent être prises en compte ou pas.
Mais en tout cas, toi, ton action est très importante du coup dans ta médiation, dans la vulgarisation, puisque tu es en interaction justement avec le public qui se pose toutes ces questions, et donc tu es aussi là pour répondre et pour rassurer, ou en tout cas pour expliquer.
Rassurer, j'aimerais bien, mais c'est vrai que nous, les médiateurs scientifiques, les communicateurs, nous sommes vraiment en proximité du public. Par exemple, sur Instagram, moi, je suis tout le temps en dialogue avec les personnes qui me suivent, parce qu'ils me posent des questions, je réponds, j'écoute ce qu'ils ont à dire. Ils m'apportent des connaissances que j'ai pas, parce que je connais pas tout. Et donc, effectivement, c'est vraiment les rôles de la communication de la science est très 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 important. Je pense que peut-être on s'en est un peu rendu compte lors de l'histoire du Covid, par les négatifs, dans le sens où on a vu les dommages qui peut faire une mauvaise communication. Et si quelqu'un avait été un peu attentif, aurait pu comprendre que on a besoin des professionnels de la communication, que ce soit pour communiquer ou pour apprendre à communiquer. C'est pour ça que j'ai fait des cours à la communication scientifique pour les chercheurs, les doctorants, aussi en entreprise. Parce que communiquer les sciences, c'est pas facile, c'est pas immédiat, et c'est quelque chose qui s'apprend.
C'est vrai que c'est très important. Alors on va faire une petite pause musicale dont tu nous as soufflé un peu l'inspiration, puisque alors on peut dire que ta mère est de La Spezia, c'est ça,
à Ligurie.
Et ton papa est de Naples.
Oui.
Napoulet.
Castellammare di Stabia, à côté de Naples, oui.
Voilà, donc on va s'écouter Pino Daniele, Resta con me.
Oui.
Che importanza ha? E tu guardami in faccia e dimmi che è vero. I say, you say, ognuno nei suoi giorni, ma io e te ci incontriamo nella mente, nessuno ci sente. Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, ah, resta, resta con me qui sul mio cuore. Se mi avresti cercato, se mi avresti lasciato. My name, your name, messi vicini per caso, nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato. Ci vuol talento per chiamarlo amore, chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, oh resta, resta con me, oh resta, resta con me, oh resta, resta con me qui sul mio cuore.
Alors, on parlait des mutations climatiques, des mutations écologiques. Alors, il y a aussi les zones littorales. Les zones littorales, elles sont directement impactées parce qu'elles sont plus ou moins protégées. Et du coup, elles se dégradent. Et c'est un peu comme l'épiderme de la Terre, quoi, par rapport à l'océan. On va dire que c'est là où ça impacte tout de suite.
C'est un milieu très fragile qui a déjà été pas mal détruit par le tourisme, par les commerces et tout. Et bien sûr, il y a des zones qui sont protégées. Mais malheureusement, malgré ça, il y a des événements qui se passent là. Et
oui, alors, justement, ouais, j'ai vu hier, tu as posté une sorte de coup de colère un peu contre certaines organisations musicales, justement, qui prennent place sur le littoral et qui voilà, ce sont des grands barnums musicaux, comme par exemple, justement, hier tu citais la Jehovah Beach Party sur les réseaux et qui dégrade l'environnement un petit peu.
Alors, donc, c'est une série des méga concerts des Jovanotti, un chanteur très populaire qui s'est toujours déclaré aimant de l'environnement, etc. Mais malheureusement, les faits disent un peu autre chose, dans le sens que normalement, il y a des lieux députés au concert qui sont les stades ou d'autres endroits plus adaptés, alors que il y a un peu la mode, c'est pas que lui, il y a d'autres chanteurs ou chanteuses qui ont fait des concerts sur la plage. Le problème, c'est que ces concerts mobilisent une quantité de personnes hallucinante. Donc, non seulement il y a l'effet de marcher sur la plage et de détruire les dunes, mais aussi la préparation de ces concerts prévoit une destruction des zones, des dunes, qui sont vraiment des... Toi, tu disais la peau... en fait, c'est vraiment la frontière...
Voilà, entre, l'épiderme.
Oui, c'est un peu la frontière entre la mer et les terres. Mmh. Et donc, il faut comprendre que les plages, ce n'est pas un amas de sable. Mmh. C'est vraiment un milieu complexe, même si on ne les voit pas au premier regard, parce que quand on va dans les plages, on voit surtout les chaises longues et les parasols. Mais c'est un milieu complexe qui est plein d'animaux et de plantes pionniers, parce que c'est un milieu très extrême, avec beaucoup de sel, beaucoup de vent, beaucoup de sécheresse. Donc, ce sont des plantes très adaptées, donc qui se trouvent parfois seulement là. Il y a des espèces en voie de disparition ou protégées, comme par exemple l'oiseau qu'en italien on dit fratino, petit frère, mais en français j'ai vu qu'on l'appelle pluvier à collier interrompu, parce qu'il a un petit collier noir, il a encore gris, les ailes grises, la tête blanche, il a un collier noir. Et donc par exemple cet oiseau il fait des œufs. Justement, dans la période des concerts, il fait des œufs qui se mimétisent avec les sables, donc gris avec des points noirs. Et comme ça, même du sable, il les pose là. Et donc, c'est vraiment très fragile. Les œufs ne sont pas du tout protégés. Et donc, en fait, la destruction de la dune détruit cette nidification, les plantes pionnières ou rares. Mais il faut comprendre que la dune protège nous aussi. Parce que quand les dunes, ce sont des barrières contre les marées, contre les vagues. Donc, si on détruit ces milieux, après, ça donne des dommages aussi
irréversibles,
pour nous.
Ouais, très 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 graves à long terme.
Oui, 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 mais il y a la loi qui protège, il y a la loi qui protège ces milliers, mais
plus
parfois
ou moins,
on peut contourner les lois apparemment.
Ouais. Et donc
sur les concerts des Jovanotti, il y a une très grosse polémique parce que justement la totalité ou quasi totalité des non seulement des gens qui s'intéressent à l'environnement, des associations qui s'intéressent à l'environnement, mais les scientifiques ils-mêmes disent que ce n'est pas un milieu où faire des concerts de cette taille, et parce que voilà, il y a des données scientifiques qui démontrent les dommages écologiques et tout. Cependant, ça continue, donc il y a vraiment beaucoup de polémiques sur ça.
En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le littoral, c'est pas, c'est un écosystème avant tout, fragile. Et c'est pas un décor ou c'est pas de la décoration, quoi.
Exact.
Et on a trop tendance à avoir ça, évidemment, sur le côté esthétique, le côté ambiance, divertissement,
moi, ça sert.
Le divertissement. Mais bon, voilà, il faudrait aussi comprendre, enfin, apporter de la responsabilité à ce regard-là, quoi.
Bah, je pense qu'en 2022, avec justement la crise climatique qu'on traverse, on peut quand même trouver des façons de s'amuser sans avoir un impact énorme comme ça. Donc, parfois, certains accusent les activistes de l'environnement d'être tristes, de ne pas vouloir la fête et tout ça, mais pas du tout. On s'amuse beaucoup, mais sans forcément détruire des milieux fragiles. Mais après, il y a un autre problème lié à cette tournée, c'est que, comme je disais, Jovanotti s'est toujours déclaré activiste de l'environnement. Ouais. Et donc,
eco-friendly.
Oui, mais en fait, on peut appeler ce qu'il fait du greenwashing, donc recouvrir
d'une peinture verte, un
événement qui n'est pas du tout vert, parce qu'il a fait appel à des associations et même à des vulgarisateurs, qui s'occupe d'environnement pour faire comprendre que non, que lui il est attentif, qu'après il va remettre la plage comme elle était avant, même plus propre, parce que lui il enlève les plastiques et tout ça. Mais c'est un peu douteuse comme opération, parce que en fait tu déclares quelque chose mais tu agis différemment. Et donc c'est un peu voilà, moi je pense que lui qu'il a une suite si énorme, il a suivi énormément, il pouvait vraiment faire la différence en lançant vraiment un message avec peut-être un peu plus de sobriété, non? Voilà. Donc
ouais, en adaptant un peu plus dans les actes, son message, ou ses propos, ou son positionnement. Justement, bon, c'est pas voilà, c'est toujours un petit peu délicat. On est un peu tiraillé entre deux.
Mais pour moi, il y a deux problèmes qui sont très gros dans cette histoire. Un problème, c'est qu'on n'écoute pas les scientifiques, parce que c'est les scientifiques, mais tous pratiquement disent que ça c'est trop impactant, que ça crée des dommages. C'est quand qu'on commence à écouter les scientifiques. On dit, dans notre milieu, on rigole sur le fait que tous les films catastrophiques américains commencent par un scientifique qui n'a pas été écouté. Et donc, le deuxième problème, c'est que ça donne vraiment un peu le mauvais exemple. Voilà.
Ouais. Eh bien oui, on est, comme chante Africa Unite, un de tes groupes préférés aussi, siamo sotto pressione.
Oui.
Questa è una storia del potere, intrisa di vigliaccheria, di danaro, di fango e di sangue.
Nulla da perdere, ma so che sotto pressione.
milioni di uomini vivono in miseria, mentre la nazione si arricchisce.
Ah oui.
Alors. voilà, de retour sur le plateau de Cappuccino dans le studio d'Aligre FM 42 rue de Montreuil avec Annalisa Plaitano. Donc on a parlé pas mal des différentes thématiques sur l'écologie, sur le réchauffement climatique. Il y a aussi donc l'astronomie, tu as fait donc récemment une conférence à l'université Paris-Saclay. Donc c'est aussi un thème qui t'intéresse?
Disons que je ne pensais pas que ça m'intéresse il y a quelques temps, mais dès que je suis en France, ça m'intéresse de plus en plus, parce qu'il faut dire que pour le fait qu'il y a Ariane, non, on met pas mal de moyens sur la communication de l'astronomie et de l'astronautique. Et donc, peu à peu, je me suis un peu passionnée, oui, effectivement.
Et puis, c'est vrai qu'il y a deux têtes de pont, justement, franco-italiennes. Il y a Thomas Pesquet d'un côté et Samantha Cristoforetti, qui est aussi des grandes figures qui permettent à tout le monde, notamment aux jeunes, mais aussi à tout le monde, d'être sensibilisé à ce qui se passe, notamment dans la station spatiale internationale.
La preuve que la communication des sciences fonctionne, parce que leur communication est préparée et étudiée, et donc maintenant de plus en plus de personnes s'intéressent à ces thèmes-là et comprennent aussi pourquoi on met des financements là-dessus. Parce que souvent, on a un peu la critique, oui, mais on a beaucoup de problèmes sur Terre, pourquoi on va dans l'espace? Alors, première chose, parce que ça paraît énorme et c'est un peu énorme, mais c'est un petit pourcentage de l'argent donné. Mais surtout parce que les recherches qui se font dans l'espace servent aussi la Terre.
Bien sûr.
Moi, j'ai fait un exemple, la télémédecine. Mm-hmm. On apprend à soigner les astronautes à distance, comme on peut déjà soigner les personnes qui sont isolées dans des milieux un peu extrêmes, ou alors lors des catastrophes.
Et puis il y en a eu de plus en plus avec les confinements, la télémédecine justement.
Ça c'est seulement un exemple.
C'est un bon exemple.
Après, il faut continuer aussi la recherche fondamentale, pas seulement la recherche appliquée, parce qu'il faut chercher dans tous les sens, et après on verra plus tard à quoi ça sert, mais c'est aussi pour la recherche de la connaissance. Mais c'est vrai que, alors justement, Samantha Cristoforetti, nous, on est fiers parce qu'elle est italienne, parce que c'est une femme.
Parce qu'il faut savoir que ces astronautes, ces spationautes, ils sont recrutés parmi des milliers et des milliers de personnes.
Ah oui, c'est une sélection très dure.
Je crois qu'il y a une sélection sur 10 000 personnes. Enfin, c'est incroyable.
Quelque chose comme ça. Donc, oui, ce sont des personnes vraiment, vraiment très, très préparées et aussi qui ont un profil psychologique... très stable.
Ouais.
Donc voilà, parce que c'est
pas
quand même une épreuve.
Pas comme nous.
Voilà, non, pas comme moi je pourrais pas. Déjà, ils vivent dans un milieu confiné, il y a la préparation technique. Elle est ingénieure, si je ne me trompe pas. Elle est aussi pilote.
Ingénieure, c'est le minimum, je crois.
Non, ça dépend. Par exemple, Claudie Aigneret, elle était médecin.
D'accord.
Qui était la première femme française et unique, peut-être, première européenne, non, parce qu'il y a eu Jean-Loup Chrétien, il me semble, comme premier astronaute français. En tout cas, pour revenir à Samantha Cristoforetti, l'actualité, c'est qu'elle, maintenant, elle est de la Station Spatiale Internationale pour la deuxième fois, et avec sa mission Minerva. La première fois, elle était allée entre 2014 et 2015 avec la mission Futura. Elle devait être si je ne me trompe pas, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une experte, mais elle devait être la direttrice della stazione spaziale internazionale, un peu la chef della stazione spaziale internazionale.
Comme Thomas Pesquet,
je trouve pas le mot en fait.
Responsable,
on peut dire. Mais après, il y a eu des problèmes, comme nous le savons, au niveau international, des problèmes politiques, notamment la guerre en Ukraine. Donc, il y a eu des changements. Bon, maintenant, elle est seulement la responsable de la partie américaine et européenne. Mais en tout cas, l'actualité, c'est que le 21 juillet, vers 16h, elle va faire une sortie extravéhiculaire. C'est-à-dire quelque chose, elle va sortir de la Station Spatiale Internationale pour faire, je ne sais pas, des réparations, j'imagine, de la maintenance de la Station Spatiale Internationale. Et c'est quand même quelque chose hein, de sortir. C'est quelque chose. Et puis, c'est la première femme européenne qui fait ça. Mais ce n'est pas pour souligner tout le temps que c'est une femme. Elle, par exemple, je sais qu'elle n'aime pas trop souligner ça, mais... Mm-hmm.
En tout cas, il faut
malheureusement encore parler de ça. J'espère que dans le futur, on pourra éviter de spécifier, mais pour l'instant, c'est encore nécessaire.
Mmh. Enfin, en tout cas, ces sorties, elles sont assez périlleuses, puisqu'on est vraiment au bord du vide, et même s'ils sont, ils ont une sécurité, mais il y a quand même des gros risques. Bon, quand même, ça va être assez vertigineux.
On lui souhaite bon courage.
En tout cas, merci beaucoup, Annalisa, d'être venue.
Merci à vous.
Bon courage aussi à toi pour tes activités, pour ton futur. Bonne continuation. De toute façon, on te suivra tes activités. On te suit sur les réseaux sociaux, Annalisa Plaetano, Instagram, Facebook.
Oui.
Et puis dans les différentes conférences et publications que tu produis.
Et merci à vous, c'est super cette émission.
Ben, merci beaucoup. Donc,